Audiolib présente Una et Salinger de Frédéric Becbédé, lu par Édouard Baird avec la participation de l'auteur.
Aussi fièrement que ma chatte Kokoschka, apportant sur l'oreiller un moineau disloqué, ensanglanté mais qui respire encore, je dépose ce livre ainsi que mon cœur, racorni, aux pieds cambrés et menus de Madame Lara Micheli. Ceci n'est pas une fiction. Quand on demandait à Diana Vreeland si ses souvenirs les plus extravagants étaient factuels ou fictifs, elle répondait « It's fiction ». Ceci est un livre de pure faction. Tout y est rigoureusement exact. Les personnages sont réels, les lieux existent ou ont existé, les faits sont authentiques et les dates toutes vérifiables dans les biographies ou les manuels d'histoire. Le reste est imaginaire, et pour ce sacrilège, je prie les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de mes héros de pardonner mon intrusion. Aux États-Unis, une étiquette a été inventée par Truman Capote pour désigner ce genre de roman, non-fiction novel. Interviewé par George Plimpton dans le New York Times du 16 janvier 1966, il définit son projet comme une forme narrative qui utilise toutes les techniques de l'art de la fiction tout en restant on ne peut plus proche des faits. En français, on devrait traduire son expression par « roman non-fictionnel ». Quelle horreur! Je préfère dire « faction », car ce mot existe dans notre langue. Il insinue l'idée émoustillante en temps de paix que l'auteur de ce récit serait une sorte de soldat effectuant un tour de garde ou le chef d'une dangereuse sédition. Les personnages de ce livre ayant eu des vies très secrètes, la place du romancier en fut augmentée d'autant. Mais je tiens à proclamer solennellement ceci, si cette histoire n'était pas vraie, je serais extrêmement déçu.
Au printemps de l'année 1980, les habitués du Palais Park de New York furent témoins d'une scène assez inhabituelle. Une longue limousine noire se gara devant le jardin public, il devait être aux alentours de 15 heures, le chauffeur de la voiture ouvrit la portière à une passagère d'une soixantaine d'années, vêtue d'un tailleur blanc et portant des lunettes de soleil, qui descendit lentement du véhicule. La dame demeura immobile un instant, tritura nerveusement son collier de perles comme si elle priait avec un chapelet, puis se dirigea vers le coin gauche du parc. S'avançant lentement vers le mur d'eau sous les arbustes, la femme riche retira de son sac à main quelques morceaux de porcelaine brisée. Son comportement devint alors très étrange. Elle s'agenouilla sur le sol et se mit à creuser frénétiquement la terre de ses ongles manucurés. Un mangeur de hot-dog se demanda pourquoi cette chiffonnière fouillait les plates-bandes au lieu de chercher des victuailles dans la poubelle située à l'autre extrémité du square. Sur le moment, il n'y prêta pas attention, mais il lui sembla bien que la sexagénaire enterrait sa porcelaine cassée dans un trou et tassait de ses mains une meute de terre par-dessus, à quatre pattes sous le jardin vertical, comme un enfant dans un bac à sable. Ceux qui finissaient de déjeuner à ciel ouvert furent encore plus stupéfaits lorsque la bourgeoise se releva, les mains pleines de terre, et remonta dignement dans sa Cadillac. Malgré ses lunettes noires, on pouvait déceler sur son visage la satisfaction du travail bien fait. Elle avait l'air d'une excentrique, comme on en voit parfois dans les rues de New York, surtout depuis la démocratisation des barbituriques. Le chauffeur referma la portière, fit le tour du véhicule, s'installa au volant et la longue berline glissa sans bruit vers la 5e avenue. Jerry, une introduction. J'ai envie de raconter une histoire. Saurais-je un jour raconter autre chose que mon histoire ? Pierre Drieu-La Rochelle, état civil, 1921.
Au début des années 2010, je me suis aperçu que je ne voyais plus personne de mon âge. J'étais entouré de gens qui avaient tous 20 ou 30 années de moins que moi. Ma petite amie était née l'année de mon premier mariage. Où étaient passés ceux de ma génération? Leur disparition avait été progressive. La plupart étaient occupés par leur travail et leurs enfants. Un jour, ils avaient cessé de sortir de leur bureau ou de leur maison. Comme je changeais souvent d'adresse et de téléphone, mes vieux amis n'arrivaient plus à me joindre.